Des podcasts
de Blast.
Manuel des terres, des outils, des récits et de la matière
pour glisser des petits cailloux dans les bottes
et jeter des gros pavés dans la mare agricole.
Une série podcast proposée par Léa Arson et Émilie Serpotion.
Une personne n'arrive jamais seule, nulle part. Elle arrive, chargée d'un collectif et d'une histoire. Elle traîne dans son sillage une multitude d'entités, invisibles, qu'elle ne reconnaît pas, dont elle se défend, mais qui lui colle au basque, quoi qu'elle dise. Que ce collectif historique qu'elle actualise en arrivant ne soit pas véritablement le sien, n'a aucune importance, car là n'est pas la question. La question, lors d'une première rencontre, est toujours de repositionner le « nous » par rapport au « eux », qui se convertit presque immédiatement en « toi », car c'est bien plus pratique de s'adresser à une personne en chair et en os qu'au démon mort et pourtant encore si douloureux du passé et de l'histoire coloniale. Nastassia Martin. Épisode 6. Les voies d'une agriculture décoloniale.
Bonjour, je m'appelle Dia. Je suis de la Kabylie, dans les hautes montagnes. Depuis que je suis jeune, je suis dans le jardin, dans les plantes. Dans, d'ailleurs, quand j'étais jeune, toujours je suis ma mère. Parce que nous sommes dans un village éloigné, c'est isolé. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de où acheter des légumes, juste que ce qu'on a dans le jardin. On a beaucoup de herbes qu'on utilise, mais en Kabyle, je les connais, mais en français, je ne les connais pas. Je ne peux pas les dicter, je ne peux pas les montrer. Il y a les chardons, il y a les cardes, il y a beaucoup de trucs que je connais, mais en français, je ne les connais pas. D'ailleurs, j'ai ramené les grains ici. Je les ai plantés dans le jardin partagé. J'ai ramené des courgettes, des courges, des grains de poivron un peu piquant. Et encore, on est encore dans la tête, il y a beaucoup de grains encore. Quand je pars en Algérie, je vais les ramener. Pour retrouver le goût, pour les ramener ici, peut-être ils vont servir pour les autres personnes. Peut-être ils vont trouver le goût que j'ai trouvé.
Notre saison 2 commence entre la ligne de tram et les barres d'immeubles, dans un quartier de Villetaneuse dans le 93. Et oui, on est toujours là pour parler d'agriculture. Mais depuis une autre perspective, loin de la France rurale et des campagnes, telles qu'on se les représente le plus souvent, c'est-à-dire globalement blanches, ancrées dans des traditions et des modes de relations immuables. Nous sommes à la fin de l'été, dans l'autre champ. Un jardin partagé où se tient un festival sur l'agriculture décoloniale. Nous y sommes invités pour animer un troc de graines radiophoniques. Des personnes, jardinières amatrices, venues du quartier, de la banlieue parisienne, de plus loin parfois, s'assoient derrière nos micros, graines en poche, pour nous raconter quelques fragments d'histoire. On y fait la connaissance de Dia, ancienne bergère kabyle et désormais membre incontournable du jardin, et de Gagou, coordinatrice du lieu, qui nous fait faire un tour entre deux tables rondes.
Et tes fèves là de Kabylie, elles sont pas sorties encore. Hein.
J'ai lavé les caisses de pommes de terre que j'ai récoltées.
Ah ouais.
Je les ai mis dans la
pomme. Ah, de patates douces.
Non, j'ai pas les patates douces. Est-ce que vous avez récolté les patates douces?
Justement, les filles, elles voulaient les récolter, elles les trouvent pas.
Il y en a rien.
Il y en a pas.
C'est pas possible. Je te montre, je t'ai pas montré. Il y a encore.
Plutôt,
c'est toi qui me les as donnés.
Bah oui, je sais, c'est les mêmes. C'est les mêmes plans. Dia, c'est la grande jardinière des jardins, celle qui nous accompagne au quotidien. Ils nous engueulent aussi, parfois. Et ben, moi, en fait, j'ai découvert les jardins il y a 3 ans maintenant. À un moment où je faisais une recherche en socio-anthropologie autour des questions de l'accessibilité et les inaccès à la terre pour des femmes qui ont un parcours migratoire. Et en fait, dans ce cadre-là, j'ai rencontré donc, le collectif du Vergalang autour des transmissions de savoir-faire, la question des savoirs autour des plantes médicinales, de aussi s'approprier des terres en, fait, en quartier populaire et la question de l'accessibilité quoi, à des terres jardinées et de la subsistance. Et donc, depuis février, je suis coordinatrice des activités agroécologiques des jardins. Alors vous allez voir, on va beaucoup ouvrir des portes. On a les trousseaux de passe-partout là dans les mains. Mais parce qu'en fait, l'histoire des jardins, c'est parti vraiment de plusieurs parcelles individuelles. Donc c'est pour ça en fait qu'on passe de parcelle individuelle en parcelle individuelle. Donc c'est pour ça aussi que les jardins, ils sont hyper intégrés dans les quartiers, notamment les quartiers sud de Villetaneuse. Donc là, juste devant, on a Langevin et derrière, on a le quartier de Saint-Leu, qui sont 2 cités. Et en fait, les personnes se sont vraiment appropriées cet espace et cet espace puis ces espaces, petit à petit, ont évolué en fonction des volontés collectives qui faisaient partie des jardins à ce moment-là. Cette année, du coup, il y a eu cette parcelle du terroir africain, où là, on a mis du sorgho à capitule noire. Il y avait des patates douces à chair blanche, du maïs, du gombo et des cacahuètes.
Tout ça sur ça, là.
Ouais, en fait, on avait fait des petites lignes. Les fèves de Kabylie et piment de Tezmelt, ils étaient là au bout. Voilà. Mais là, en ce moment, il y avait fèves et radis qui avaient été plantés ensuite.
On a un peu cette idée en commune que c'est des plantes qui ont besoin de soleil et qui, du coup, c'est pas des plantes d'ici. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'une plante va être considérée comme exotique ou pas ?
Plante exotique ou plante indigène, ça n'a aucun sens parce que la raison d'être même d'une graine, c'est de migrer. Et une plante, avant qu'on ait l'impression qu'elle soit indigène ici, par exemple les tomates autour de Nice, en fait, elle a été l'histoire de milliers d'années d'adaptation autour de ce qu'on appelle maintenant le Mexique, ensuite plus sur le continent asiatique avant d'arriver ici. Donc c'est hyper relatif quoi, de dire plante exotique ou plantes indigènes parce que les graines sont migrantes par essence et du coup nous ça a été plutôt une question de se réapproprier des graines qui sont plus adaptées culturellement aux personnes qui cohabitent sur les jardins donc par exemple les fèves, on les a utilisées pour le couscous. Le piment, on va pouvoir faire des huiles pimentées. On n'a pas une grosse production, donc on n'a pas vocation à nourrir en fait le quartier, même si on aimerait produire plus. On n'a pas 2-3 jardiniers ou agris qui seraient vraiment professionnels et qui pourraient sortir suffisamment de récoltes. Et c'est pas l'idée. En fait, nous, depuis les jardins, on s'inscrit dans cette idée d'expérimenter. Des semences qui ne vont pas forcément avoir l'habitude de grandir ici, en terre en plus polluée du 93. Mais en fait, c'est aussi des expérimentations d'adaptation au changement climatique, nos climats qui deviennent de plus en plus arides, secs, chauds, que d'avoir des semences qui ont l'habitude de climats plus secs et chauds. Et en fait, ce travail-là, aujourd'hui, je sais pas, il va être légitimé par la recherche, notamment par l'INRAE, de chercher des adaptations semencières. Mais je trouve ça intéressant aussi quand elles sont faites, en fait, par les personnes, par les habitants et habitantes d'une terre, parce que, en fait, c'est une nécessité culturelle et alimentaire et de l'ordre du soin, de la mémoire. Il y a une question aussi très sensible, quoi.
Du coup, on se demandait si c'était ça d'avoir un des axes d'avoir une perspective décoloniale, parce que en fait il y a du maïs partout, mais c'est une plante pas du tout européenne à la base. Et en fait c'est des plantes qui ont été amenées par les colons, enfin par les blancs. Et quand c'est ramené par des personnes qui sont pas natives de France, c'est là où c'est considéré comme exogène, étranger, etc. Alors que c'est déjà la base de notre alimentation. Du coup, toi, comment tu définirais, comment on peut penser et mettre en pratique une agriculture décoloniale? Alors peut-être à l'échelle du jardin déjà.
Petit à petit, les jardins se sont réappropriés ce concept décolonial, écologie décoloniale, et donc agriculture décoloniale. Et je pense que c'est une question d'humilité aussi, de comment on pense l'agriculture. On parlait de ce qu'on appelle exotique, mais comme tu disais, il y a à la fois des graines qui vont être... voyageuses, mais d'autres qui vont être voyagées par des parcours migratoires obligés par la colonisation, enfin hyper violents. C'est aussi reconnaître en fait toutes ces trajectoires-là. Pourquoi en fait telle plante est dans tel endroit? C'est parce qu'il y a eu des siècles de violence coloniale et c'est pour ça qu'elle est ici. Et en fait, du coup, l'agriculture décoloniale, c'est vraiment éduquer ce regard-là aux colonisations. Qui ensuite se retrouvent dans nos jardins et comment aussi nos assiettes, elles sont issues de colonisation. Et aussi de retrouver des goûts et des cultures de personnes qui sont en exil hors de leur terre d'origine. Je pense que c'est tout ça en fait, c'est tresser tout ça ensemble. Et en fait de pouvoir avoir des espaces aussi d'échange où toutes les manières de faire sont valorisées et sont considérées comme légitimes.
Salut, merci d'être avec nous et bienvenue à la dernière grande discussion du Festival Plein Champ qui s'appelle Terre et Liberté, lutte anticoloniale et antiraciste pour se réapproprier les corps et les terres damnées. On voulait aussi ancrer cette discussion dans les jardins, donc parler depuis des terres polluées du 93, de la banlieue parisienne. Et ici, on est des jardins où on essaie de retrouver un accès à la terre collective pour manger et se soigner dans ce contexte hostile. Donc pendant cette discussion, on va parler de l'exploitation du travail des travailleurs et travailleuses immigrés employés dans l'agro-industrie. On va aussi parler de l'intoxication des corps et des terres. Le chlordécone aux Antilles, c'est aussi diluer du poison à la fois dans les terres et les corps, des résistances, de racisme, de justice environnementale, de racisme environnemental. Et pour parler de cette danse...
Les questions d'écologie et d'agriculture décoloniale se pensent et se pratiquent depuis bien longtemps, partout dans le monde. Que ce soit en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, ou dans les territoires d'outre-mer. Tandis que l'agriculture hexagonale repose encore massivement sur un système extractiviste et dévastateur. Comment alors aborder ces questions depuis l'Hexagone? Comment les penser en dehors du milieu associatif militant, dans le monde agricole professionnel? Y a-t-il des agriculteurs, des agricultrices qui se revendiquent d'une agriculture décoloniale? Ou qui, sans forcément utiliser ces termes, enrichissent leur modèle de pratique et de personnes venues d'ailleurs.
Avant de quitter le jardin, et pour poursuivre ce sujet, Gagou nous recommande d'aller rencontrer Hanan, agricultrice installée à quelques kilomètres de là. Elle est plus exactement arboricultrice et maraîchère, parmi les pionnières en Île-de-France à avoir créé une ferme paysanne et urbaine. Une ferme à l'orée de la ville, au milieu de la forêt, où l'on peut se rendre en bus et en RER.
Non, c'était juste en attendant, hein, donc...
Vas-y,
enregistre, il n'y a pas de soucis, on va en finir la caisse.
Il y a une exigence sur la tranche des légumes, même dans les amas.
Sur la quoi?
La tête des légumes.
Moi, je fais gaffe. Moi, je trouve que c'est important que tu viens chercher ton panier et que ça soit un peu joli. Enfin, moi, j'aime bien avoir des beaux légumes, en fait. Ouais, ok.
À deux, comme ça.
Ouais.
Okay.
Ouais, je vais leur mettre donc oignons, carottes, poireaux, ça c'est sûr. Donc les courges. C'est faux. Moi, là, celle qui me reste.
Dans la vie d'un maraîcher, le début de l'année, c'est la page blanche sur laquelle on se projette avec beaucoup d'enthousiasme et de plaisir sur toutes les cultures qu'on va mettre en place.
C'est ton shopping.
C'est Noël. C'est là, tu ouvres le catalogue de semences pour regarder toutes les variétés qui existent. Tu as des variétés spéciales. Donc tu regardes. Ah, celle-là vient d'Italie. Ouais, c'est vrai qu'on trouve pas ça en France. Et pourtant, quand je me rappelle quand j'étais en Italie, il y avait ce plat, le radicchio, quand même, c'était hyper bon. Oui, c'est le moment où tu vas essayer de chercher les variétés les plus adaptées soit à ta clientèle, soit à ton propre référentiel. Bah, c'est clair qu'il y a une période de l'année où on fait kusamashi, c'est-à-dire la courgette farcie. Et c'est avec un certain type de courgette, c'est pas la longue verte qu'on connaît habituellement ici. C'est une courgette qui a la peau qui est plus tendre, qui a la peau très claire et qui est plus courte, qu'on va évider avec un couteau un peu spécial, un évidoir, et remplir de riz avec un petit peu de viande hachée. Et qui va se cuire en cocotte. Donc on va essayer de trouver effectivement cette variété. Et alors c'est là que commence le grand voyage des graines. Parce que c'est pas ces variétés-là qu'on arrive à retrouver dans les catalogues en France, par exemple. En tout cas, je parle des semences qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Donc les semences italiennes, on va pouvoir les trouver. La pastèque tunisienne, la courgette palestinienne, le navet algérien, etc. Celles-là, on ne les trouvera pas dans le catalogue. Donc, on nous arrive par un autre biais. Et c'est toujours une grande joie de voir des graines arriver avec les voyages des uns et des autres. Bon, c'est pas tout à fait légal. On n'a pas tellement le droit de faire voyager des graines de cette manière. Et pourtant, c'est aussi le caractère libre des graines. Enfin, c'est vraiment la métaphore de la graine. C'est-à-dire, la graine, elle peut avoir mille et une formes dans la nature. Moi, quand on va à la ferme, il y a plein de bardanes. Donc, la bardane, elle s'accroche à tout ce qui passe, aux vêtements, mais même à la peau. C'est-à-dire, tu l'attrapes dans la main, c'est fini pour toi. Tu n'arrives plus à t'en débarrasser. Non, mais c'est compliqué. Mais en même temps, c'est la beauté des graines d'être aussi libre et voyageuse. On se les passe, on se les refile, ça crée des liens, ça crée des ponts, c'est un truc de fou. Et pourtant, voilà, moi je travaille juste avec un producteur de semences, mais il y a toujours des graines qui finissent par arriver sur la ferme qu'on va expérimenter.
Les catalogues de graines industrielles brevetées s'imposent aujourd'hui quasiment partout sur la planète. À l'inverse, les semences dites paysannes, variétés locales, reproduites dans les champs par les agriculteurs eux-mêmes, ont connu, à partir des années 60, un encadrement de plus en plus restrictif au nom de la production efficace et rentable de nourriture. Réduites au statut de collection, ces graines ancestrales des quatre coins du monde sont aujourd'hui enfermées dans des congélateurs, souvent situés en Europe, et en partie contrôlés par l'industrie semencière, Bayer et Monsanto en tête, qui s'en servent comme ressources génétiques pour créer ensuite de nouveaux OGM qui finissent dans nos assiettes. Alors, une agriculture décoloniale, ce pourrait être cela d'abord. Reconnaître cette captation et cet appauvrissement des ressources agricoles, dont les graines font éminemment partie, au profit de l'industrie européenne et au détriment en premier lieu des pays anciennement colonisés. Reconnaître que ces peuples sont aujourd'hui empêchés dans leur autonomie alimentaire, mais aussi restreints dans leurs pratiques culinaires et culturelles. Reconnaître que cela participe à des stratégies d'affamement dans les différentes guerres modernes, où les banques de semences sont bombardées, comme ce fut le cas en Irak par les Américains, puis en Syrie pendant la guerre civile, et encore plus récemment en Palestine par Israël. Une fois que ces ressources locales sont détruites, la voie est complètement libre pour imposer partout dans le monde des catalogues restreints de variétés industrielles. Alors, dans ce contexte, les reproductions et les échanges pirates de semences dans nos jardins, nos fermes paysannes et par-delà les frontières sont des stratégies de résistance vitale.
C'est notamment de ces préoccupations que germe chez Hennen l'envie de s'installer en agricole. L'histoire commence pour elle il y a une quinzaine d'années, de l'autre côté de la Méditerranée, au moment des révolutions arabes.
Ensuite, on est parti s'installer un an en Tunisie. C'était en 2012, juste après le départ de Ben Ali. Il y avait une grosse émulation à cette période, quoi. Donc c'était quelque chose qu'on a voulu vivre et puis on a pris un temps pour ça. C'était un moment riche, cette période où on était à Tunis. Et dans mes discussions, j'étais aussi allée voir des gens qui montaient des jardins et qui commençaient à cultiver à différents endroits de la Tunisie et qui se mettaient en réseau. Il y a eu cette rencontre ensuite avec ce paysan tunisois qui m'a montré, ça aussi ça a été un choc, une prise de conscience en fait, quand j'ai vu les semences qu'il tenait dans ses mains et surtout qui nous racontait le fait qu'il avait 3 fils qui n'allaient pas reprendre son activité. Et ces semences qu'il détenait de son père, qui lui-même les détenait de son grand-père, etc. On peut remonter loin la chaîne. Mais en fait, elles allaient tout simplement disparaître puisque ses fils n'allaient pas replanter ces semences. Et c'est vraiment à la même période hein, où j'ai pris connaissance de l'existence de terres de lien, de la possibilité de reprendre des fermes, et que vraiment ça a commencé à m'habiter, mais de manière presque obsessionnelle. Enfin, je crois qu'on peut le dire. De manière obsessionnelle. Mon mari aurait bien voulu qu'on passe plusieurs années là-bas et moi j'avais plutôt envie de retourner sur le territoire français. Et quand on est rentré, je voulais partir d'Île-de-France pour aller dans la montagne, dans la Drôme ou l'Isère, entourée de beauté et loin de l'urbanisation. Et puis après 10 montages de dossiers pour obtenir du terrain avec des gens, sans les gens, etc. Je me suis retrouvée à postuler donc à Shell sur un terrain nu, sans aucune infrastructure. C'était vraiment mon plan B, hein, l'installation à Shell. Enfin, c'était même le dernier plan. C'était franchement ça. A posteriori, je pense que c'est aussi ce qui me permet de faire venir plein de gens à la ferme. Faire venir, je sais pas, mais en tout cas accepter qu'il y ait plein de gens qui viennent. Et ce sont pour la plupart les gens du territoire, effectivement, où il y a beaucoup de gens qui ont un parcours migratoire ou plus ancien comme le mien, tu vois. Moi, c'est plutôt mes grands-parents et mes parents qui sont venus, ou plus récents pour beaucoup d'autres. Donc en fait, la ferme devient un lieu de respiration. Ouais, on peut dire ça comme ça. Pour ceux qui ont connu la paysannerie dans notre pays, ou le fait d'avoir des cultures vivrières, c'est beaucoup ça aussi. Mais en fait, j'ai connu des gens des Balkans à l'Afrique qui me parlent effectivement de comment ils faisaient quand ils étaient chez eux, quoi. Tu vois ? Et c'est précieux pour elles, enfin, je le vois. C'est effectivement l'occasion que ce soit mis en avant, alors que dans un territoire urbanisé, ben, t'as pas l'espace pour en parler. Et c'est pas bienvenu. Et c'est quelque chose aussi, peut-être, qu'on a quitté parce que, justement, on était pauvres. Donc ça, c'est pour les gens qui ont connu ça. Mais ce que je dis, c'est que même pour ceux qui n'ont pas connu ça et qui ont grandi sur le béton, il se passe quelque chose. Tu vois, c'est... Et je pense que, peut-être que je renvoie aussi, hein. Enfin, tu vois, peut-être que ça permet à d'autres de s'autoriser à... penser que... Je finis pas la phrase, mais...
Depuis 2 ans, Hennen s'implique dans un programme de formation à destination de personnes porteuses de projets agricoles, avec le GRDR, Migration, Citoyenneté, Développement. Cette ONG, basée en Île-de-France, mène des actions s'inscrivant dans la durée, au service de personnes à la fois dans les pays de départ, de passage et d'accueil. Pour Hennen, peu importe que leur projet soit en France ou dans leur pays d'origine. L'année dernière, c'est ainsi qu'Aïssata est venue se former à l'agroécologie sur la ferme. Elle revient rendre visite à Hennen pour prendre de ses nouvelles. Retrouvailles en cuisine, où encore une fois, ça parle graines, culture et nourriture.
Je connais pas du
tout. Ça, c'est le couscous palestinien.
Ok.
Tu vois.
On dit rien plus.
Ouais, et ça, moi, je maîtrise pas, parce que ça, c'est ce qu'ils font en Palestine et qu'ils appellent couscous. Mais pour moi, ça, c'est pas un couscous. Enfin...
bah, non, mais c'est un gros couscous, quoi.
Ouais, mais non, mais c'est pas de la semoule roulée, non?
Ah. Franchement, ça ressemble aux graines de... Tu sais, le moni, là, qu'on a fait la fois dernière. Ah. Un peu... C'est fou comme le monde est divers en aliments, quoi. Donc,
ça, c'est excellent. Pas ma fille, mais le mil, c'est excellent pour la santé. Ouais. Et toi, t'as dit le fonio, c'est encore une autre plante?
Oui, chez nous, il est considéré comme le plus diététique des céréales.
Ah, d'accord. Ah, waouh, c'est chaud. Regarde.
C'est tout fin.
Ouais, dis donc, comment ça se récolte?
Tout fin.
Oh, la vache.
Vous avez montré... Et en plus, lui, il avait déjà été passé à la vapeur une fois et séché.
Ok. Bon, on va sortir les belles assiettes, les filles. Il n'y a pas raison de ne pas se faire plaisir. Vous en dites quoi?
Bah ouais.
Let's go.
J'aime bien Léa, elle est toujours partante pour tout.
En même temps, tu proposes de sortir les belles assiettes.
Et ça, le fonio, tu peux faire avec une sauce gombo ou...
Oh, le fonio, tu l'accompagnes avec ce que tu veux. J'ai jamais essayé avec sauce gombo, mais est-ce que ça reste une céréale comme une autre?
C'est ça?
Ouais.
Tu ne fais pas forcément avec...
Non. Enfin, je pense que tu choisis la sauce un peu que tu veux.
Et vous vous rappelez, quand vous vous êtes rencontrés, vous avez direct parlé de cuisine? C'était l'agricole, votre première discussion? Vous vous rappelez de votre première discussion?
Première discussion, elle a eu lieu au téléphone.
Ah oui? Toi, tu te souviens mieux que moi, alors?
Ouais, c'est quand je t'ai envoyé mon mail de demande de stage.
Ah, vas-y, raconte, parce que...
Bon, après, je me rappelle pas trop de tous les champs, mais oui, je t'ai envoyé un mail pour une demande de stage, et tu m'as appelé.
Ouais.
Et ouais.
Je t'ai posé quoi comme question?
Bah, pourquoi je veux faire un stage?
Ouais,
et du coup, j'ai été obligée de dire que j'ai un projet. Voilà. Quand je fais mon immersion chez Hennen, c'était vraiment mon premier contact avec la terre, travailler le sol. Je lui parle de mon projet. C'est là où elle m'explique, elle me dit, je donne des cours dans le cadre d'un programme du GRDR. Et, qui accompagne des personnes issues de l'immigration qui vivent en Île-de-France et qui ont envie d'apprendre le métier du maraîchage. Donc si ça t'intéresse, je peux t'intégrer dans ce programme. Dans le cadre de ce programme-là, c'est essentiellement des personnes qui viennent d'Afrique, et beaucoup d'Afrique de l'Ouest d'ailleurs, et qui ont aussi... vraiment, il y a des gens qui ont exactement le même projet que moi, mais dans un autre pays. Certains profils du Mali, donc. Et un peu de tout, d'ailleurs. Par exemple, il y en a qui veulent se positionner sur une partie de la chaîne de valeur. Donc, pas forcément la production. Mais il y en a qui veulent, par exemple, faire de l'export de produits semi-transformés ou même bruts. Par exemple, des mangues ou du fonio ou autre. Donc... Il y a ce type de profil, donc il y en a qui veulent plutôt créer une sorte de marque, voilà. Il y en a qui sont dans la transformation, donc j'en ai rencontré une Je crois que c'est le Togo qui veut transformer de l'igname. Enfin, moi, je veux faire une ferme bio de la production maraîchère, peut-être un peu d'élevage de volailles et accueil à la ferme. On se retrouve un peu de limite dans une sorte d'écosystème où on fait face aux mêmes problématiques de « mais comment à partir d'ici je peux faire pour avancer sur mon projet là-bas ?» Et on se donne beaucoup de tips. Le type de questionnement auquel j'ai beaucoup été confrontée, c'est qu'il y avait une propension à vouloir transposer tout ce que je voyais dans les fermes dans le futur modèle que je veux mettre en place au Mali. Sachant que tout n'est pas transposable, que tout ne doit pas être transposé d'ailleurs. Par exemple, la blette, je l'ai découverte chez Anan. J'avais jamais mangé de blette. En plus, j'ai trop kiffé le fait que c'est trop coloré. T'as du jaune, du rouge, du vert. C'est beau, c'est très bon. Mais je fais de la blette au Mali. Personne ne saura ce que c'est. Enfin, ça va être beau dans la ferme, mais ça restera dans la ferme.
Il y a aussi des choses qui, du coup, passent de l'un à l'autre, que je formalise en expérimentation officielle, comme dans le projet avec le GRDR, où on a pu expérimenter la culture du gombo, qui, a priori, ne pousse pas en Île-de-France, mais en fait, on a vu que si, pouvait pousser en Île-de-France. Ça, c'était une belle joie. Déjà, la plante, elle est magnifique. C'est de la famille de l'hibiscus, avec des... Vous voyez les fleurs d'hibiscus, grandes, rouges, superbes, là. Et bien là, en fait, elles sont pareilles, mais jaunes. Tu vois, c'est une fleur d'hibiscus jaune. Et là, de réussir dans cette expérimentation avec des personnes originaires d'Afrique de l'Ouest, la culture du gombo, qui peut intéresser pas mal de gens du territoire, en fait, parce que le gombo est consommé depuis l'Asie jusqu'en Amérique, en passant par l'Afrique. Il n'y a qu'en Europe où, effectivement, on ne connaît pas trop cette plante, donc on ne la consomme pas. De voir si ça pourrait être une plante qu'on pourrait développer sur le territoire et ainsi éviter les importations, parce que de toute façon, elle est vendue dans les rues de Paris. À 7 à 8 euros le kilo, transportée sans doute en avion. Donc en fait, bon, il y a plein de raisons, de bonnes raisons, je trouve, que d'expérimenter. Ça, après, il faut avoir le temps. Moi, je le fais dans un cadre particulier. Et c'est génial de pouvoir le faire.
On va dans le champ ? Ok. Attention à ne pas glisser. Comme il a plu là. Donc si on regarde par là, tout va bien. On est en pleine nature. Et ça, c'est vraiment génial. On entend néanmoins dans notre dos qu'il se passe quelque chose. Et si on se retourne, là on voit un des chantiers du Grand Paris. Donc il y a eu 5 hectares agricoles qui ont été mobilisés là pour construire un tunnelier et creuser. Voilà. La terre a été extraite par là. Ils ont commencé en 2019, on est en 2025.
Depuis la ferme, quoi, depuis
les débuts. En même temps.
Et là-bas, c'est...
Et on voit aussi les lignes à haute tension qui sont 250 mètres plus bas, là, et qui coupent un peu le paysage, qui marquent presque la frontière entre la ville et l'espace sur lequel on se trouve là. Ce serait peut-être mieux sans, mais
finalement, ça apporte, ça fait partie de l'ensemble urbain, quoi.
C'est un lieu qui te... T'es attachée à ce lieu ?
Écoute, il s'est passé beaucoup de choses pour moi, là, ces 5-6 dernières années ici. On a créé tout l'outil de travail, toute l'infrastructure, rien n'existait. Donc oui, c'est enfanter une ferme, en fait. c'est quand même assez énorme. Il n'y avait rien, quoi. Enfin, il y avait le sol. Il y avait le sol et maintenant, oui, il y a une petite ferme qui nourrit des gens. Donc oui, effectivement, hein, c'est... Puis la première chose que j'ai faite ici, c'est de planter des arbres. Donc c'est les pommiers qu'on va aller voir.
Je me demande si le fait d'être agricultrice en ville,
ouais,
ça crée un décalage par rapport à ton entourage social, parce que t'as un métier qui est pas...
Non,
trop
totalement. Dans... Non, mais ça, c'est dur. Pour moi, c'est très difficile, ça. Ça, c'est... Déjà, personne comprend mon métier. Donc oui, après, j'ai des fois des remarques un peu étranges. Si je vais à Paris, une fois, il y a une fille, j'étais à un concert, elle me dit « Et toi, sinon, tu fais quoi ?» Je dis « Moi, je cultive. » Donc là, bon, évidemment, ils ne comprennent pas quand tu dis ça. Et après, elle me regarde de haut en bas et elle me dit « Ah ouais ? On dirait pas. » Mais en fait, je suis pas allée à Paris avec mes bottes et ma brouette. Enfin, tu vois, j'étais habillée comme on s'habille quand on va en ville, on met des chaussures. Et après, il y a quand même la sensation pour moi de marcher à contre-courant tout le temps. Et je pense que dans un milieu rural, t'es plus aligné avec le mode de vie des autres personnes qui t'entourent et que ça change les choses, quand même. Tu te sens moins en décalage. Si t'as un peu de terre sur ton pantalon, c'est pas grave. Enfin, tu vois, de constater douloureusement que c'est trop loin de la vie des gens, que vraiment...
Toi, tu te tires combien si c'est pas indiscret ?
Alors, l'année dernière, j'ai pris 1 500 € en prélèvement privé du fait d'avoir des activités pédagogiques, hein, qui permettent de mettre du beurre dans les épinards. Parce que moi, j'ai des épinards, mais le beurre... voilà.
Mais en termes de commercialisation, parce que tu dis les gens s'en fichent un peu de ce qu'on fait, est-ce que tu as du mal à vendre ou...
Ah oui, oui, c'est un gros sujet, la commercialisation.
Ok.
Ouais.
Donc, il faut vraiment se... Si c'est facile.
Pour moi, l'alimentation, elle commence dans le champ, elle commence pas sur l'étal d'un magasin. Et donc, je pensais pas que ça serait une difficulté pour les gens de venir acheter à la ferme. J'avais pas imaginé ça au démarrage. Et c'est quand même une histoire d'éducation politique et de mentalité aussi, hein, je pense. Parce que moi, j'offre un cadre où ça serait possible et y a pas, ça prend pas là, tu vois. Donc je me décide à maintenant aller vers des territoires qui me sollicitent un peu plus et qui sont intéressés par ce que je produis d'une part et après la démarche. On dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Ben, pour moi, il faut aussi un village pour monter une ferme. C'est normal, en fait, parce que c'est tellement énorme. Ça peut pas se faire tout seul. Et c'est même pas juste, en fait, que ça se fasse tout seul. Vu que c'est pas tellement pour le bénéfice économique qu'on fait ça. Hein. En tout cas, pour moi, il y a vraiment une dimension... je considère que c'est un service public, tu vois. Sans les moyens dédiés, mais...
C'est vous, Mireille ?
Non, ce n'est pas moi, Mireille, mais il n'y a pas de Mireille ici.
Monique.
Oui, c'est moi, Monique.
Je fais un reportage sur Hanan avec ma collègue Émilie et elle nous a parlé de vous.
Ah bon ?
Elle nous a dit qu'elle vous connaissait de l'époque où elle habitait à Clichy.
Oui, il y a longtemps, elle était petite, elle avait 18 ans.
Et cette AMAP, alors, ça fait longtemps qu'elle existe? Vous faites partie des fondatrices?
La MAP, ça fait au moins une dizaine d'années qu'elle existe. Je ne saurais pas dire la date de la création, mais moi, j'y suis depuis le début. Là. Avec les légumes de Anna, j'aime bien cuisiner le potiron. Faire une soupe. Soupe au potiron, voilà. Avec de la noix de muscade pour parfumer. C'est pas grand-chose à faire. Hein. Et sinon, je cuisine beaucoup les oignons aussi. Soupe à l'oignon, tarte à l'oignon, les oignons de Hanan nous font bien pleurer quand on les épluche, mais ils sont goûteux.
Écoutez le son du thé.
C'est convivial, ça, une AMAP où on sert le thé.
Et c'est 360, la coutume, en fait, à chaque distribution. On profite pour le rendre, en fait, un moment convivial de partage. Normalement, les distributions, c'est du 17h à 19h. Uh-huh. Surtout quand il fait bon, on traîne. Parfois, c'est jusqu'à 21h. Il y a Monique, en fait, depuis X années, donc elle nous ramène le gâteau. C'est le gâteau de Monique. Et moi, parfois, soit le café, soit le thé, mais souvent, c'est le thé. Ça va avec le joyeux partage. Déjà, c'est une fierté d'avoir une AMAP. Avoir un pain bio, en fait, il y a peur que ça ne marche pas, en fait. Et là, on fait de petit à petit, donc les gens, ils s'inscrivent. Première année, on était 11, là, on est 14. Petit à petit, il est content. On était le premier AMAP avec Alain. C'est quelqu'un qui a grandi, qui est né, qui a grandi à Kishiswa. Donc, c'est un truc symbolique aussi en plus. Donc, on est content, même ces légumes, ça se conserve. Hein.
Et vous dites ici que c'est un peu difficile, le bio et tout. Pourquoi c'est difficile?
Parce que vous savez que Kishiswa, c'est une ville parmi les villes les plus pauvres. Donc, malgré le fait qu'on a fait un partenariat avec le centre social CCAS, et qu'ils prennent en charge, ils ont accepté de prendre en charge 50% du panier, et sous condition de revenus, pour être bénéficiaire, pour être éligible à ce dispositif, il ne faut pas dépasser, je pense, à reste à vivre journalier, je pense, 7 euros. On a réussi en fait, à l'augmenter en fait, à 10 euros. Parfois, la directrice m'a dit, même si vraiment ça dépasse de 1 euro ou 2, on fait une commission et ça passe. Ils jouent le jeu, c'est pour encourager. Ils disent que voilà, manger bio et manger sainement, c'est pas l'affaire que de la classe moyenne riche. Même les pauvres, on a le droit de prendre le contrôle de ce qu'on mange, ce qu'on avale. Malgré ça, parfois, moi, je fais le tour dans les différents événements, j'essaie de tracter, j'essaie de convaincre les gens pour adhérer. Malgré ça, ils me disent, oui, mais Moustapha, mais j'aimerais bien. Même parfois, à 4 euros le panier, 50%, c'est toujours cher pour moi.
La réémergence d'espaces agricoles en ville ouvre de nouveaux espaces politiques. Si nous nous sommes retrouvés là, en proche banlieue parisienne, où l'agriculture avait quasiment disparu au cours du siècle dernier et où l'artificialisation des terres s'est menée en accéléré, si nous nous sommes retrouvés là donc pour chercher ce que pourrait être une agriculture décoloniale et populaire dans l'Hexagone, ce n'est sûrement pas par hasard. Au fil de nos rencontres, nous réalisons que ces questions sont plus activement pensées et incarnés dans ces espaces urbains, multiculturels, et brassés par les questions d'exil, d'immigration, d'accueil et de justice sociale. Dans son verger, Hennen reçoit la visite de l'association ZERA, Zone écologique de recherche et d'action, qui cultive des arbres fruitiers avec les habitants et habitantes dans la ville voisine de Rosny-sous-Bois. Ils aimeraient planter de nouvelles variétés sur la ferme, entre autres choses.
Comment ça va?
Enfin, moi, j'ai très envie quand même d'expérimenter le grenadier et voir si ça peut donner des fruits ici, quoi.
Des agrumes?
Ah, ça, par contre, ouais. J'y ai réfléchi.
Si tu fais ranger du yuzu, déjà, ça...
Dehors?
Oui, c'est, oui, ça tire moins bien, le yuzu.
Yuzu,
ouais.
Et on a des clémentines aussi.
Il y en a des tangelo clémentines.
C'est vrai?
Ouais.
Par contre, niveau production, on ne sait pas encore.
Oui, on ne sait pas comment ça produit, voilà, en quantité.
C'est pas comme les
mais ça se forme. Tu peux le former à la diable ou tu peux les former en... Enfin, en fait, ils sont assez simples à tailler au final.
Ouais, ok, pour discuter un peu agrumes. Et moi, en fait, ce qui m'intéressait beaucoup, parce que je suis gourmande, et un jour, j'ai goûté les kiwis. Ouais, et ouais, ma vie a changé.
C'est dans 8 ans que ça donne, les kiwis.
C'est
mais,
ça le problème.
Mais ça peut...
Même greffé.
Et
Ben justement, vous disiez que c'est pas évident de rencontrer des personnes dans le milieu agricole qui se questionnent sur les questions de domination de classe, de racisme, de pratiques décoloniales ou pas. C'est un peu notre travail de réflexion en ce moment, c'est en termes de pratiques, de relations au territoire et aux autres, c'est quoi ? Enfin, comme vous, vous y réfléchissez, vous le pratiquez. Rien que votre rencontre, ça fait partie de ce processus. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Si vous n'avez pas envie de le faire, c'est hyper OK hein, de pas le faire. C'est juste comme, c'est le sujet qui vous rassemble.
Déjà, ouvrir un imaginaire décolonial, ça demande beaucoup d'étapes. Déjà, se poser la question des formes d'exploitation du végétal, du naturel. Ça demande à des personnes de prendre en charge économiquement le sujet de comment je fais une ferme qui ressemble pas à un champ où on exploitait des esclaves. Ensuite, comment je fais en sorte de pas m'épuiser moi à ma tâche, comment je fais pour me payer. Enfin, en fait, c'est trop complexe. Nous, on est à une échelle d'assaut et du coup, on se pose la question d'une autre manière. Notre sujet, c'est plutôt comment on essaye de donner la parole à des personnes qui n'utilisent pas les mêmes termes, par exemple décolonial, écologie, tout ça, qui n'utilisent pas ces termes-là, et qui ont des pratiques qui sont écologiques, décoloniales. Et donc ça passe par plein de choses. Déjà, l'incarnation, moi je pense qu'il y a une question d'incarnation qu'on ne dit pas là, parce que bon, je pense qu'on est un peu pudique, mais concrètement, Anna n'est pas blanche, et en fait, concrètement, c'est important. Et à mon avis, il y a un sujet sur les modèles. Si on voit toujours des blancs qui font de l'agriculture, on peut pas s'imaginer en faire. Quand on a des parents qui ont été ouvriers agricoles, parce que souvent, quand on touche à l'agriculture, quand on est racisé et précaire, c'est parce qu'on a été ouvrier et pas exploitant. T'aimes pas le mot, mais du coup, c'est le mot qui
me vient. Je sais, c'est le mot consacré.
Et du coup, effectivement, c'est pas positif. Enfin, c'est pas. Enfin, on a été exploité pour son corps, et du coup, c'est dur de se projeter dans une vision.
J'ai eu quelqu'un, moi, en stage cette année, qui était en formation de BPREA, donc formation agricole pour être maraîcher. Et lui, il vient d'Afghanistan. Et il vient d'une zone rurale, il vient pas de Kaboul. D'accord ? Et en fait, là, lui, ce qu'il veut ici, c'est monter une ferme. Et en fait, je réfléchissais avec lui sur, concrètement, comment il pourrait faire pour monter une ferme. Sauf que j'ai quand même... j'ai dû lui dire, mais bon, Hassan, là, la stratégie, ça va pas être simple. Hein. Faut du capital pour monter une ferme. Faut remplir les papiers pour accéder à la terre. En fait, toi, peut-être que la stratégie, ça serait plutôt, est-ce que tu peux être employé dans le jardin d'insertion où tu as travaillé en tant qu'encadrant technique pour avoir le niveau de revenu dont tu as besoin pour ensuite imaginer un peu plus tard pouvoir monter une ferme parce que là, ce serait plus crédible pour l'administration, quoi, tu vois. Mais c'est le cas, on va dire, pour tout le monde. C'est compliqué de monter une ferme. Mais pour les personnes qui auraient envie, c'est comment on fait pour que ça soit possible.
Ah, c'est ça.
Et moi, je pense qu'une des réponses, c'est celle que j'ai développée toute la semaine, c'est le fait de rentrer dans une coopérative. Donc, mon rêve de coopérative, il permet ça, quoi.
Ouais, tu peux de rentrer avec un peu de moyens.
Faut mettre un ticket d'entrée à déterminer, mais avec 10 000 euros, 20 000 euros, c'est pas pareil que 150 000 euros. Enfin, c'est pas les mêmes montants. Et le fait de pouvoir aussi avoir des droits sociaux parce que tu cotises et que tu es salarié de la coopérative, ça change aussi les perspectives pour plein de gens. Quel que soit, notamment les gens des milieux plus populaires.
Anna et Jade, vous êtes toutes les deux salariées de l'association Abiosol, dont un des buts, c'est de susciter des vocations paysannes en Île-de-France. Alors, qu'est-ce que vous diriez à une personne exilée ou arrivée récemment en France qui a un attrait pour le monde agricole, mais qui ne sait pas du tout ni comment s'y prendre, ni par où commencer.
Je dirais qu'il y a beaucoup d'opportunités en agriculture paysanne. Là, dans les années à venir, il y a plein d'endroits chouettes où on pourrait aussi réinvestir des villages ou des grosses fermes à reprendre à plusieurs. Et ce que disait Jade aussi, de ne pas hésiter à se rapprocher de réseaux, mais comme les nôtres, mais pas que, des réseaux de solidarité, et que le lien aux fermes, il peut se faire quand même assez facilement, qu'il y a souvent des visites organisées, qu'il y a pas mal d'opportunités de se rendre dans des fermes pour un peu briser la glace et se faire une idée peut-être plus juste de ce qu'est, à quoi ressemblent les fermes paysannes en Île-de-France. Et il peut y avoir des réticences aussi, du coup, de personnes qui ont des très mauvaises expériences en Espagne ou ailleurs. Et pour qui aller travailler en agriculture, c'est vraiment la punition et c'est de l'exploitation, et à juste titre. Et donc nous, c'est aussi un des enjeux qu'on avait, c'était de donner à voir aussi un autre type d'agriculture.
Et peut-être si je peux compléter ce que tu dis, en tout cas, je pense qu'il y a vraiment pour moi l'opportunité de travailler avec des personnes qui souvent ont déjà des savoir-faire qu'ils ont acquis à travers les pratiques vivrières qu'il y avait dans leur famille ou des pratiques professionnelles qu'il y a eu dans d'autres territoires. Et finalement, ça, c'est aussi une chance. Et en France aujourd'hui, les personnes qui bénéficient d'un enseignement agricole sont quand même très minoritaires en vérité. Là, en ce moment, j'accompagne un étudiant en BPREA qui a grandi sur une ferme de poules pondeuses en Syrie et qui est venu en France pour des questions politiques. Et lui, son objectif, c'est vraiment de reprendre une ferme en poules pondeuses en Île-de-France. Et donc, on l'accompagne à ça dans son projet via toute la partie vraiment structuration économique, chiffrage du projet, mise en relation avec des pistes foncières, etc. Et c'est aussi assez fou parce que souvent, dans les personnes qu'on croise, qui ont plutôt ces profils-là, c'est souvent des gens qui ont un fort lien avec l'élevage, parce qu'en fait, c'était souvent les productions qui étaient majoritaires dans leur pays. Et c'est pas pareil de te projeter sur une ferme en élevage quand t'as grandi sur une ferme en élevage, ça c'est sûr. La question du référentiel, elle est beaucoup plus présente. Et en fait, en Île-de-France, c'est vraiment, on a un manque d'élevage qui est impressionnant. Donc là, je trouve que le sens aussi de l'opportunité, il est frappant, parce qu'en fait, nous, des fermes en volaille qui restent, qui sont à l'abandon, mais qui sont des outils de production dans le fond, qu'on pourrait remettre en fonctionnement avec des gens qui ont vraiment la vocation et l'envie de travailler avec des animaux, c'est aussi vraiment une chance pour nous, quoi. Enfin, pour nous, c'est incroyable.
Qu'est-ce que l'hospitalité ? Ou que pourrait-elle signifier dans notre monde ? Un rituel ? Une éthique individuelle ? Un principe politique au cœur de nos relations ? Hospitalité, en grec ancien, se traduit « philoxénia », un mot qui s'est perdu, au contraire de « xénophobie », qui, lui, n'existait pas dans l'Antiquité et a fait irruption dans notre langue au XXe siècle. Philoxénia, qu'on pourrait traduire « l'amitié pour l'étranger, l'inconnu », celle ou celui qui arrive. Depuis 2022, l'association Abiosol, avec une quinzaine de fermes franciliennes, dont la ferme de Hanan, mais aussi l'association A4, le GRDR et d'autres, organise les rencontres de l'hospitalité paysanne pour penser l'accueil des personnes exilées et allophones sur les fermes. Ces rencontres ont abouti à la confection d'un guide d'accompagnement en plusieurs langues, à destination des fermes souhaitant accueillir et des personnes étrangères désireuses de se rapprocher du monde agricole. Illustré d'une tour de Babel à l'envers, ce guide retourne le mythe de toutes les langues du monde qui se côtoient sans se traverser, pour faire de nos tentatives de traduction dans des sens multiples des espaces où s'échangent des cultures et des savoir-faire.
Vous avez des compétences en agriculture, en maraîchage ou en élevage qui viennent d'ailleurs, d'un autre pays ou de la route entre deux lieux?
In un altro paese o durante il tuo viaggio tra un posto e l'altro?
هل ترغب في التعلم، التعليم والاستمتاع بالزراعة معا؟
إيه وأبغى أكل شيء. Vous avez envie d'apprendre, d'enseigner, dans le plaisir de grandir ensemble.
Have you left the countryside and are asking yourself how you can live here differently from your grandparents?
هل غادرتم الشريف ولكنكم تعلمون أنها ليست مجرد رحلة الأجداد؟
Vous avez fait face à des situations difficiles, précaires, douloureuses.
Ayez-moi la nouvelle.
Et vous vous sentez malgré tout pleine d'élan.
هل اضطررت لمواجهة مواقف صعبة ومحفوفة بالمخاطر ومؤلمة؟ ومع ذلك ما زلت تشعر بأنك مليء بالطاقة.
Hai affrontato situazioni difficili e ti senti comunque pieno di slancio e di forza di volontà.
Has someone spoken to you about agricultural work, which has sparked something inside of you? Are you asking yourself simply how you can work with others in the field with warm and welcoming people? Quelqu'un vous a parlé d'emploi en agriculture et cela vient remuer quelque chose en vous.
Ti chiedi semplicemente come fare per lavorare nei campi o nei loro dintorni con delle persone accoglienti.
Vous vous demandez simplement comment faire pour travailler dans les champs ou tout autour avec des personnes accueillantes.
هل تتساءل ببساطة كيف يمكنك العمل في الحقول أو حولها مع أشخاص ودودين؟ إذن هذا الدليل لك.
This guide is made for you.
Questo manuale è fatto per te. Ce guide est pour vous.
Ewa tutti ewa pai. Ewa. Abana.
Merci à Hanan, Dia, Gagou, Aïssata, Anna, Jade et Charlotte pour leurs paroles et leurs pensées qui ont fabriqué cet épisode. Merci aussi à Virginie, Robin, Louise, Laurée, Meriem pour la lecture de l'extrait du guide de l'hospitalité paysanne dans leur langue maternelle et à Billy pour la composition musicale.
Chers auditeurices, vous trouverez sur les différentes plateformes d'écoute et sur le site de Blast, à la page Les podcasts Manuel des Terres, tous nos précédents épisodes. N'hésitez pas à vous référer à leur description en ligne où vous trouverez des ressources et des travaux pour continuer à creuser les sujets. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour notre deuxième épisode de cette saison 2. Cette fois, on part en montagne, dans la vallée de la Roya, avec un collectif de meufs paysannes pour échanger autour du virilisme au travail, de la santé et du rapport au collectif, en agriculture, encore et toujours. Allez, salut!
Désolé, mais ils ont creusé un crasse trou noir infini et infini à des millions moi dessous. Je reste assis seul à genoux en répétant ça va, ça va, ça va, ça va, jusqu'à ce qu'arrive la bande, les sons des terres du dessous. Salut, nous sommes la bande, le club, le gang qui reprend tout. Nous allons renverser l'exemple, comment on vit là en dessous. Tenez, voici le manuel, le manuel.